Bonsoir et bienvenue dans cette édition des Tribunes de la Presse. La CENI a convoqué depuis samedi dernier l'électorat pour la députation nationale, provinciale et la présidentielle. Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire propose la suppression de l'examen d'État. Steve Mbikai évoque notamment comme cause la baisse sensible du niveau des élèves qui viennent du secondaire pour l'université. Tels sont les thèmes principaux de ce soir dans votre émission. Autour de cette table, nous avons Richard Chaco, il est rédacteur en chef à la RTGA et émettant de Kinshasa. Bonsoir Richard Chaco.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Capi.
J.R. Mokolo, journaliste et producteur du magazine d'information ACCTV, une chaîne émettant de Kinshasa. Bonsoir J.R. Mokolo.
Bonsoir Guy Maté, très heureux en tout cas de vous retrouver, très heureux aussi de retrouver les auditeurs de Radio Capi, la radio de la paix.
Merci Dexon Assani, journaliste indépendant et correspondant des Radio 50 de Kinshasa et Radio KFM de Kindu à Kalima au Maniema. Bonsoir Dexon Assani.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir Richard Chaco, bonsoir Agir Mokolo.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission. Avant d'aborder le débat de ce soir, on voit comment les journaux quinois ont traité l'actualité de la semaine. On écoute à cet effet Alain Rung dans cette revue de presse.
Bonsoir. Le démarrage dimanche par la CENI des opérations d'enregistrement des candidatures à la députation provinciale sur toute l'étendue de la RDC a suscité les commentaires de la presse quinoise de cette semaine. De la majorité à l'opposition, de la société civile aux indépendants, l'heure de vérité a sonné pour se mettre en ordre de bataille pour les élections du 23 décembre 2018, conseille la prospérité. Le quotidien rapporte que la CENI a convoqué samedi 23 juin 2018 le corps électoral et ouvert ses portes aux candidats à la députation provinciale dès les premières heures de dimanche 24 juin 2018. Sur l'ensemble du pays, environ 171 bureaux de vote, bureaux de réception et traitement des candidatures BRTC ont été opérationnels dimanche, signale pour sa part actualité.cd. Dépêche.cd indique qu'en Boujimaï, il n'y a pas eu d'engouement lors de la première journée des opérations d'enregistrement des candidatures à la députation provinciale, comme pour la plupart des villes à travers le pays. Du côté du comité laïque de coordination, CLC, on est plutôt sceptique sur la tenue des élections apaisées. Dans une lettre envoyée au président de l'Union africaine samedi dernier, les dirigeants de cette structure des laïcs catholiques attirent l'attention de l'Union africaine sur la montée des tensions politiques et sociales en RDC à 6 mois de la tenue présumée des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, rapporte le Phare. L'ouverture mercredi du procès le procureur général contre Moïse Katumbi pour atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'État par le recrutement des mercenaires a largement été commenté par la presse quinoise aussi. Prévue pour 10 heures, la première audience de ce procès n'a pu démarrer qu'à 15 heures et a vu le président de séance la renvoyer d'office au 10 octobre 2018, rapporte Forum des As. Pour justifier ce renvoi, poursuit le confrère, la cour a expliqué qu'elle n'a pas pu atteindre le prévenu Moïse Katumbi Tchapwe et ses co-accusés. Le potentiel salue une première victoire pour le collectif de défense de Moïse Katumbi devant la Cour suprême de justice qui siégeait mercredi en cassation dans l'affaire présumée de recrutement des mercenaires. Le quotidien estime en effet que la Cour s'est pliée en reconnaissant toutes les irrégularités qui entourent ce procès soulevé par la défense. Pour l'avenir, cependant, ce report n'annule pas les faits. Sur un autre registre, la prospérité s'interroge sur la suite des préparatifs du rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi, dont l'organisation des obsèques était annoncée avant le 30 juin. Le quotidien note qu'à la veille de l'anniversaire de l'indépendance de la RDC, aucun communiqué ni la moindre annonce du programme des hommages à Étienne Tshisekedi au Palais du Peuple prévu avant la date mémorable du 30 juin 2018 n'est perceptible. À qui la faute, s'interroge le quotidien sans répondre.
Merci à vous Alain Irung, Richard Chaco, rédacteur en chef à la RTGA émettant de Kinshasa. Après avoir suivi cette revue de presse nous proposée par Alain Irung, quelle est l'actualité de la semaine que vous souhaiteriez commenter?
Oui, l'actualité que je souhaiterais commenter, c'est la convocation de la tripartite CENSA, CENI gouvernement, qui est programmée la semaine prochaine, probablement le 2 juillet. C'est une tripartite qui vient, bon, comme on le sait, c'est évaluer l'état d'avancement du processus électoral, surtout avec ce qui a été décidé à l'accord de Saint-Sylvestre, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. C'est une très bonne chose, mais je suis très sceptique de voir que ce sera une tripartite de troupes. de trop parce que nous sommes pratiquement à quelques mois de la tenue des élections, mais déjà ce qui a été décidé à l'accord de Saint-Sylvestre ne sont pas à 90% respectés. Je prends les cas par exemple parce que nous devons aller aux élections, mais il faut aller aux élections avec un climat de paix, avec la décrispation politique comme l'a si bien dit l'accord. Mais je crois que c'est tout le problème de les prisonniers politiques ou ceux qui sont exilés n'est pas encore résolu. Vous venez de suivre avec la revue de presse notre procès dans la cour de cassation ou à la cour suprême avec l'affaire Moïse Katumbi. Moïse Katumbi qui s'est déclaré comme candidat président de la République mais a du mal à revenir parce qu'il y a trop de problèmes alors que c'était décidé dans la cour Saint-Sylvestre.
Donc l'application des mesures de
décrispation n'est pas encore. Il y a la question des fichiers électoraux qui pose problème, la question surtout de la machine à voter qui jusque-là n'a pas encore trouvé consensus, mais du côté de la CENI, vous avez suivi les discours tonitruants, même peu arrogants du président de la CENI, Corneille Nangaa, qui impose la machine à voter, quel que soit ce qui est dit là. Donc je crois que tout ce qu'on va on va dire dans cette partie-là, ça ne va pas se faire parce que la CENI tient à organiser les élections avec la machine à voter contre la volonté d'une partie des parties prenantes. Il y a les mesures de crispation, comme je l'ai dit, ces prisonniers politiques ne seront pas libérés. Et Moïse Katumbi qui et d'autres qui sont encore à l'extérieur ne vont pas revenir. Donc, je suis sceptique quant à l'issue, une très bonne issue de cette tripartite.
Merci, J.R. Mokolo, journaliste et producteur du magazine d'information à CCTV, une chaîne émettant de Kinshasa. Et pour vous, c'est quoi l'information qui vous a marqué cette semaine?
Bon, moi, ce qui m'a marqué, c'est la remise par la ministre des Droits humains, Marie-Ange Moshebekwa, du rapport de la commission d'enquête mixte menée sur les différentes manifestations organisées par les CLC et des manifestations qui ont été en tout cas réprimées dans les sangs par les forces de l'ordre. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on devait en priorité transmettre ces rapports au ministre de la Justice qui est membre de l'exécutif et que lui devait mener examiner ces rapports. Et après, bon, il pourra maintenant donner une copie.
N'est-ce pas elle qui coordonnait la commission?
Non, je ne parle pas de la ministre. La ministre des Droits humains, c'est elle qui a coordonné la commission, mais elle est allée remettre maintenant ses rapports au ministre de la Justice, au lieu que ça soit remis, par exemple, au procureur général, près la cour de cassation, tout ça, parce que c'est le parquet, en tout cas le maître de l'action publique. Et le ministre de la Justice fait partie de l'exécutif, et le ministre de la Justice n'est pas le patron du pouvoir judiciaire. Et c'est l'impression qui se dégage ces derniers temps dans notre pays où on voit les ministres de la Justice pratiquement prendre le devant, piloter toutes les réformes, toutes les décisions qui se prennent au niveau du pouvoir judiciaire et que le Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'organe suprême du pouvoir judiciaire, est relégué au second plan. C'est ce qui me tique un peu. Pourquoi ça doit être remis entre les mains du ministre et pourquoi pas entre les mains du procureur général de la République qui est en tout cas le maître de l'action publique? Et ça explique le fait, par exemple, que nous voyons que cette justice-là fonctionne à la tête du client. C'est une justice aux ordres, une justice qui obéit aux injonctions. Poursuivez X, Y, ne pas poursuivre tel autre, parce que telle personne dérangerait, par exemple, les intérêts de ceux qui sont aux affaires. Ça pose énormément de problèmes. Et nous retrouvons là pratiquement en contradiction avec la notion de séparation des pouvoirs édictée par Rousseau, qui voudrait que le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire soient des pouvoirs qui sont séparés, même s'il y a des parcelles de collaboration.
Et consacrés même par la constitution de la RDC.
Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'on peut guimater, ou imaginer par exemple le ministre en charge des relations avec le Parlement, Lisanga Bonganga, c'est pas diriger le Parlement, comme aujourd'hui le ministre de la Justice est en train pratiquement de diriger le pouvoir judiciaire?
Merci J.R. Mokolo. Dexon Hassani, journaliste indépendant et correspondant des Radio 50 de Kinshasa et Radio KFM de Kindu à Kalima au Maniema. C'est quoi l'actualité qui domine aujourd'hui à Kindu?
Merci beaucoup une fois de plus du matin. Merci beaucoup à tous les auditeurs de la Radio de la Paix. L'actualité qui domine, comme vous le savez, ça sera le 58e anniversaire de l'indépendance de notre pays demain. Et ce sont les préparatifs qui battent ici record. Mais toutefois, nous sommes en train de voir que y a des choses qui ne seront pas peut-être faites, et notamment il n'y aura pas des manifestations publiques ici à Caliment, rien n'est prévu quant à ça. Mais aussi, il y a des agents de l'État qui sont en train de crier partout, qui n'ont pas eu leur salaire, et ils ne savent pas à quel sens se vouer, ils ne savent même pas comment est-ce que leurs enfants seront encadrés. Mais dans le marché, nous remarquons aussi qu'il y a certaines marchandises, certaines denrées aussi alimentaires qui ont hausser les prix. C'est le cas, par exemple, de la viande de bœuf qui passe de 10 000 francs congolais à 12 000 francs. Mais aussi, nous remarquons que dans ce même marché, il n'y a pas vraiment un engouement, mais que ce soit aussi dans les différentes boutiques et magasins. En tout cas, c'est selon les différents vendeurs ou les différents propriétaires des boutiques qui nous disent tous que cela est dû à cette crise généralisée qui sévit ces derniers temps, que ça soit aussi du côté de Nganda ou les bistrots. En tout cas, il n'y a pas vraiment assez d'engouement.
Ok, merci. Notre premier thème de ce soir, la CENI a convoqué depuis samedi dernier l'électorat pour la députation nationale, provinciale et la présidentielle. À cette occasion, le président de cette institution d'appui à la démocratie a appelé les acteurs politiques à observer les codes de bonne conduite durant cette période. Les propos de Corneille Nanga ont été recueillis par Paul Matendo.
Dans sa communication, Corneille Nanga affirme que déjà le dimanche 24 juin, le bureau de réception des traitements des candidatures sera ouvert sur l'ensemble du territoire national. Au total, 171 bureaux pour les élections législatives nationales, 169 pour les provinciales et un bureau pour l'élection présidentielle. Autre chose à signaler, le président de la CENI annonce l'engagement du gouvernement de rembourser la caution payée en 2015 par les partis politiques et les candidats indépendants. Sur la machine à voter, il répète que les élections auront lieu avec cette machine. Cette position n'a pas rencontré l'assentiment de certains mandataires, comme le témoigne une opératrice de la société civile.
Il y a quand même d'autres questions qui n'ont pas trouvé satisfaction auprès des participants. C'est celle relative à la machine à voter.
Pour sa part, les regroupements politiques, le centre invite les autres regroupements à former leurs témoins plutôt que de s'attarder sur la question de la machine à voter. Joseph Bangakia est son porte-parole.
Nous devons aller aux élections. Nous allons voter avec la machine à voter. La chose que nous disons à nos militants et aux compatriotes, au lieu de discuter sur tout cela, formons nos témoins. Soyons vigilants pour que le vote soit sincère.
Avec cette étape, la CENI entame les activités liées au scrutin, a annoncé Corneille Nanga.
Merci Paul Matendo. Consécutivement à cela, les bureaux de réception et de traitement des candidatures BRTC en sigle ont ouvert leurs portes dimanche dernier sur toute l'étendue de la RDC. Richard Chaco, rédacteur en chef à la RTGA et mettant des Kinshasa. Plus de suspense, le corps électoral a été convoqué. La CENI a donc respecté son calendrier. Qu'est-ce que cela vous inspire?
Oui, d'abord je dois remercier la CENI. Depuis qu'elle a publié son calendrier l'année passée, elle est en train d'exécuter ce calendrier. Aucune date n'a été dépassée ou a loupé au contrôle de la CENI. Depuis qu'on a publié les calendriers, il y a eu nettoyage ou audit des fichiers électoraux, il y a eu promulgation de la loi sur la répartition des sièges. En tout cas, jusque-là, chapeau bas, la CENI est en train d'exécuter son calendrier tel qu'il a prévu. C'est vrai, le dimanche, vous l'avez dit, il y a eu convocation de l'électorat pour les trois scrutins qui seront organisés le 23 décembre prochain. C'est une très bonne chose, parce que vous savez que les élections provinciales devaient se tenir depuis 2015, si je m'abuse, 2015 ou 2016, si je m'abuse, mais c'est fait qu'il y a eu ce qu'il y a eu. Bon, il y a eu report, les gens ont déjà déposé les dossiers.
Les BRTC avaient été ouverts, les gens avaient déposé leur candidature,
caution et consort. Là, même si on a trouvé un compromis, on va rembourser la caution. Mais je suis sceptique que au jour d'aujourd'hui, les candidats ont déjà perçu leur caution, même si c'était à un prix bas par rapport à la loi qui a été modifiée. Mais le problème, malgré cette avancée que je viens de saluer par rapport à la CENI, mais il y a toujours des inquiétudes. D'abord, j'ai parcouru hier le bureau de réception et traitement de candidature ici à Kinshasa. J'ai vu qu'il n'y a pas d'engouement. Il y a seulement des mandataires qui ont retiré les dossiers, les formulaires. Ils l'ont pas encore déposé. Par exemple, au BRTC de Gombe, qui est installé à Kingabwa et sur Poids Lourd, il y a qu'une seule, il n'y a eu personne, une seule candidature. une seule candidature que j'ai vue jusque-là d'un parti politique. Robert Tessé de Kalamu, une seule candidature. Mais les autres, là, aucune candidature n'a été déposée.
Apparemment, c'est le propre de l'homme politique congolais.
Bon,
hein,
c'est
parce
ça,
que
justement, c'est ce qui est même.
Ils procèdent souvent ainsi. Au début, il n'y a pas d'engouement. Et tous, ils vont à la fin de l'opération.
C'est ce que déplore même le responsable de ces BRTC et même le vice-président de la CENI qui, avec qui nous avons parcouru ces centres-là. On a dit qu'il n'y a pas de prolongation. Et aujourd'hui, nous sommes au 9e jour. Il nous reste 9 jours pour clôturer. Il n'y a pas de prolongation. Mais je suppose qu'à 9 jours, on viendra déposer. C'est une très bonne chose. Mais il y a un problème. Nous allons aux élections. Mais malgré ces avancées-là, il y a des choses qui n'ont pas encore trouvé des réponses.
Voilà, on va y revenir. Ouais, on va y revenir. J.R. Mokolo, journaliste et producteur du magazine d'information à CCTV, une chaîne émettant à Kinshasa, avec cette convocation de l'électorat, peut-on dire que plus rien n'empêche la CENI à pouvoir organiser les élections du 23 décembre prochain?
Oui, je crois qu'on ne peut pas le dire d'emblée parce que nous avons une mauvaise expérience. En 2015, l'électorat avait été convoqué. Les candidats avaient déposé même leur caution. Et nous connaissons tous ce qui s'est passé avec ces élections. Elles n'ont jamais eu lieu. Et les cautions sont jusqu'à maintenant retenues dans les caisses de l'État. Bon, c'est une bonne chose que la CENI ait en tout cas respecté le calendrier qu'il a lui-même mis en place. Parce que par le passé, bon, on était habitué par exemple au non-respect du calendrier. Mais respecter le calendrier, qui en fait est chronogramme sur papier, n'est pas suffisant pour aller aux élections. Pour aller aux élections, il faut s'assurer qu'il y ait véritablement un financement pour ces élections-là. Mais les échos que nous recevons, que la CENI ne reçoit pas suffisamment des fonds prévus pour ces élections, même si officiellement, bon, Corneille Nangaa et son équipe disent que, bon, ils n'ont pas de plainte à se faire par rapport au financement des élections. Deuxièmement, ce sont des conditions.
Apparemment, la question des financements de ces élections, c'est l'une des contraintes que la CENI n'a pas pu élaguer jusque-là. Hein.
Bon, la CENI, les dirigeants de la CENI nous disent qu'il n'y a aucun problème, que le financement est versé régulièrement par le gouvernement. Mais une élection, ce n'est pas seulement le financement, ce n'est pas seulement le calendrier, mais ce sont les conditions. Est-ce que nous allons vers quelles élections? Des élections gagnées d'avance par un camp politique sous l'égide de Corneille Nangaa, qui tient des propos assez incendiaires, qui fait montre en tout cas de l'arrogance par rapport aux parties prenantes, qui vous dit par exemple qu'il y aura élection avec la machine à voter, avec ou sans l'opposition. Ceux qui ne veulent pas, ils n'ont qu'à boycotter comme l'UDPS l'avait fait en 2006. Est-ce qu'avec de tels propos, de celui qui est censé être en tout cas l'arbitre, on peut vraiment aller dans les bonnes élections? Quand il dit même que lui, sa mission n'est pas de créer la confiance. Et pourtant, quand on est un organe chargé d'organiser les élections, chargé de départager les protagonistes, on est censé créer la confiance. Mais quand il y a une crise de confiance entre le parti prenant et la CENI, donc ça veut dire que nous risquons d'aller aux élections pour aller aux élections, mais qu'après les élections, nous risquons de nous retrouver dans une situation beaucoup plus difficile et beaucoup plus même chaotique que la situation que nous vivons aujourd'hui. Il y a pas mal de préalables même rappelés par les CENSA de Joseph Olegankoy, comme par exemple la décrispation du climat politique. On ne peut pas aller aux élections dans des conditions où les uns ont tous les droits, ils peuvent circuler à travers la République, battre campagne et en tout cas avancer leur programme auprès de la population, mais qu'une autre tendance de la classe politique, elle a pratiquement main et pied lié. Vous avez suivi dernièrement Kasumba Lessa, Kyungwa Kumwanza avait prévu d'organiser une manifestation, il avait été stoppé par les forces de sécurité. On voit par exemple ceux qui sont en prison, les Muyambo, les Diomi, pour être libérés, ça pose problème. Mais Koko Mulumba, l'ancien député de Kingabwa, de Limete par exemple, qui a été jugé sur un lit de l'hôpital, très malade, on ne veut même pas qu'il puisse aller se faire soigner, comme si la condamnation à 18 ans était une condamnation à mort de facto. Donc il y a tellement de problèmes que si par exemple Corneille Nangaa ne fait pas attention, et que pour des raisons mercantilistes, il impose la machine à voter, nous risquons de nous retrouver dans une situation assez difficile parce que, au lieu que la machine à voter soit un objet, un instrument qui va faciliter le vote, mais ça risque d'être en tout cas un instrument, un élément de contestation électorale. Et quand il y a contestation, dans le climat où il y a beaucoup de gens, en tout cas, qui ne jurent que par l'alternance, nous risquons de nous compliquer, en tout cas, la situation. Et que Corneille Nangaa risque d'avoir une lourde responsabilité dans tout ce qui va arriver.
Merci, Dexon Assani, journaliste indépendant et correspondant des Radio 50 de Kinshasa et Radio KFM de Kindu à Kalima au Maniema. Le calendrier électoral a été rendu public. La loi électorale promulguée, comme l'a rappelé Richard Chaco, l'annexe à la loi électorale portant répartition des sièges promulguée, les fichiers électoraux reconstitués. Et donc, on s'achemine inexorablement vers les élections, mais vous avez suivi J.R. Mokolo qui évoque cette crise de confiance entre la CENI et les parties prenantes à ces élections. Vous avez suivi les CLC ainsi que certains partis politiques de l'opposition qui ont mis à garde la CENI ainsi que le gouvernement sur l'éventualité, n'est-ce pas, des élections bâclées. Et comment vous entrevoyez la suite d'Exxon Assani?
Voilà, merci beaucoup une fois de plus. Je crois que à mon avis, je pourrais dire que avec des propos un peu catastrophiques, si je peux les qualifier ainsi, qui est en train de donner à chaque fois le président de la CENI, l'avenir des opérations électorales risque de sombrer. Parce que, après tout, les parties prenantes et la CENI doivent tomber tous d'accord pour que on puisse aller un peu de l'avant. Et dès que il y a des incompréhensions, les parties prenantes disent qu'il faut faire ça, la CENI fait autre chose. Moi, à mon avis, je crois que on ne peut pas marcher. Et sinon, ça risquerait de créer encore des échauffourées comme on en a vécu dans les élections passées. J'allais aussi aborder dans le même sens avec ces décisions unilatérales de la CENI. Quand, par exemple, la CENI martèle sur l'utilisation de la machine à voter, cette machine qui est décriée par toutes les couches, par toutes les parties prenantes à ces opérations, à ce moment-là, ça ne va pas nous amener à un bon port. Il y a trop de bêtises dans cette machine à voter, par exemple. Lorsque un électeur vote, son nom n'est même pas figuré sur le bulletin de vote. Vous voyez, ce sont des choses qui sont en train de crier l'opposition, tout comme la société civile, bref, sont en train de crier les parties prenantes. On doit tout faire pour mettre ensemble les parties prenantes et la CENI, le mettre ensemble, en fait que le processus électoral continue et arrive à son terme et à la prochaine, qu'on ne puisse plus voir des échauffourées. Il y a aussi les cas, par exemple, des électeurs sans empreinte, ces électeurs qui ont été dénichés dans les fichiers électoraux. À mon avis, la CENI a été trop pressée, bien qu'il fallait respecter le calendrier, mais elle a été trop pressée à pouvoir entamer cette opération de dépôt tant qu'elle n'a pas tenu compte de toutes les remarques et suggestions données par l'OIF et les parties prenantes. Il fallait tout d'abord régulariser la situation du fichier électoral, mais aussi prendre en compte les réactions des parties prenantes sur la machine à voter qui est aujourd'hui une question casse-tête. Mais aussi, je voudrais relever autre chose là-dessus, Guy Maté. Certains concernent la caution. Vous trouvez que apparemment ces élections vont écarter plusieurs personnes. La caution à l'époque de 2015 qui était évaluée à 500 000 francs congolais, mais aujourd'hui on passe à 1 million de francs congolais. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas assez de moyens, par exemple un bas peuple qui voudrait lui aussi postuler, dès qu'il trouve qu'il quitte de 500 000 à 500 000, en ce moment-là il est découragé, il ne va pas aller postuler. Et pourtant les élections, c'est presque tout le monde qui a droit d'aller postuler.
Merci.
Il faut seulement remplir les conditions d'éligibilité. Alors, quitter de 500 000 jusqu'à 1 million, ça c'est décourager déjà certaines personnes. Mais aussi, dans ces élections, je suis en train de voir qu'il y aura aussi exclusion des indépendants. Ils sont marginalisés. Pourquoi je le dis ainsi? Parce que la loi électorale elle-même dit qu'il faut réaliser 3% de suffrages valablement exprimés dans une province. Alors, un indépendant qui peut peut-être postuler seulement dans un territoire X, et il n'a pas la possibilité d'aller dans d'autres territoires, comment pourra-t-il réaliser le seuil des 3%? Sinon, il est écarté.
Merci, Dexon.
il est pratiquement impossible de se donner sans qu'un indépendant réalise, par exemple, 80% ou 90% d'électeurs dans une circonscription électorale.
Merci, Dexon. Donc, on comprend qu'il y a beaucoup de préalables qui doivent être, n'est-ce pas, accomplis avant ces élections, parmi lesquels il y a cette question sur la machine à voter. Richard Chaco, vous-même, J.R. Mokolo, Dexon, vous êtes unanime sur le fait que la question sur la machine à voter continue à diviser les parties prenantes aux élections. À votre avis, que faut-il faire pour harmoniser les divergences des vues au sujet du recours, n'est-ce pas, à cette machine à voter?
Je crois que les évêques l'ont bien dit dans lors des conclusions de leur 55e assemblée plénière qui s'est clôturée aujourd'hui. Je suis tombé sur le document. Dans leur déclaration, les évêques ont formulé des recommandations au gouvernement, à la CENI, au peuple congolais et même à la communauté internationale. Le problème, c'est que au niveau de la machine à voter, il faudrait que la CENI puisse garantir ceux qui vont compétir que ce n'est pas la machine, contrairement à ce qu'on dit, la machine à voler ou à tricher, c'est une machine vraiment à voter. Même s'il y a un problème au niveau de la terminologie, on dit non, c'est une imprimante console. La CENI a l'obligation, a ses devoirs de rassurer, de créer ce climat de confiance.
Mais c'est ce que la CENI fait depuis quelques mois. La CENI ne fait que tenir ces discours-là n'est-ce pas, essayer de convaincre l'opinion que c'est pas une machine à voter, c'est juste une machine à imprimer les bulletins de vote. Mais en dépit de ce travail de sensibilisation de la CENI, les gens semblent rester dubitatif.
Mais si ça ne rassure pas une partie d'acteurs qui sont impliqués dans les processus électoraux, pourquoi la CENI doit s'obstiner à l'imposer? Vous suivez les déclarations de la CENI. On dit nous allons voter avec la machine à voter. Passez-moi la tautologie. Ça veut dire quoi? La CENI impose, alors que la CENI ne doit pas imposer. La CENI doit d'abord recueillir les avis de ceux qui contestent cette machine-là. Pourquoi vous contestez? Si ça divise, pourquoi pas la CENI doit mettre ces machines de côté et chercher à songer
Est-ce que aussi la CENI ne serait pas perplexe dans ce sens que les commandes ont été faites par rapport à ces machines à voter et c'est beaucoup d'argent dépensé? Est-ce que la CENI ne serait pas embarrassée pour revenir sur sa position?
Oui, mais c'est justement le problème. Nous sommes à 6 mois d'élection. Le problème des machines à voter a commencé à être évoqué depuis longtemps. Et maintenant là, quand on dit on refuse la machine à voter, la CENI peut dire ok, ça va. Quand vous refusez la machine à voter, les élections ne vont pas se tenir au 23 décembre 2000. C'est-à-dire qu'il faut aller au glissement, il faut aller au-delà. C'est que craint d'aucuns. Je crois que les problèmes, la machine à voter, c'est un problème. Il y a aussi les problèmes, comme l'a dit Dixon, les problèmes des 16,7% des électeurs sans empreinte. Ça représente, calcul fait, à 6,7 millions d'électeurs qui dont leur identité pose problème. Pourquoi la CENI ne doit pas clarifier la situation là? Et on a parlé de décrispation. J'ai évoqué les cas des prisonniers politiques en cela. Mais il y a des médias qui sont encore fermés au Katanga. Il y a des médias qui jusqu'à aujourd'hui sont encore fermés. Les médias appartiennent à l'opposition. Pourquoi tous ces mesures-là? Je crois que pour aller aux élections, c'est bien beau. Mais il faudra que nous allions aux élections avec un climat apaisé, avec un climat décrispé. Les évêques l'ont bien dit, il faudra rassurer. La CENI doit rassurer la population. La CENI n'organise pas les élections pour elle-même. Elle organise des élections pour les Congolais. Alors ces Congolais-là, si les Congolais ne sont pas unanimes sur une question donnée, la CENI doit revoir les choses.
J.R. Mokolo, c'est quoi les scénarios possibles si la CENI maintient sa position, sa logique, n'est-ce pas, de recourir à cette machine à voter, si les mesures de décrispation politique ne sont pas appliquées, et si, en fait, tous les préalables qui ont été évoqués ici pour avoir des élections apaisées, tous les préalables ne sont pas accomplis, c'est quoi les scénarios possibles, à votre avis?
Bon, si ces préalables ne sont pas, en tout cas, réunis, et si on ne crée pas les conditions des élections qui conduisent à des résultats acceptables par tout le monde, je suis convaincu que le résultat qui sortira de ces élections ne sera pas, en tout cas, accepté par une bonne frange de la population, de la classe politique.
Et par conséquent,
la solution à la crise de légitimité qu'on voulait avoir par les élections risque en tout cas de ne pas être celle convenable, en tout cas, cette crise-là. Et je doute fort que nous risquons de nous retrouver dans la même situation. Et je reviens un peu sur cette question des machines à voter. Ce n'est même pas un problème de tricherie. Même avec les bulletins papier, on peut aussi tricher. Mais c'est une question de confiance. La CENI n'a jamais, par exemple, programmé cette machine à voter dans les calendriers électoraux. Ce n'est pas prévu. Et même quand ils sont allés au dialogue de la cité, quand ils ont signé l'accord de la Saint-Sylvestre, par exemple, on avait demandé à la CENI de pouvoir trouver les moyens pour rationaliser les votes. Mais ça devait être des solutions trouvées par consensus. Mais du moment où la CENI se rend compte qu'il y a une bonne frange de la classe politique qui ne veut pas de cette machine à voter, il y a des partenaires pas des moindres comme les États-Unis d'Amérique, il y a même les pays fabricants, la Corée, qui déconseillent cette machine-là. Pourquoi est-ce qu'on s'accroche? Est-ce qu'il y a-t-il des intérêts économiques derrière ce marché des machines à voter qui ferait que si on ne fait pas des élections avec cette machine-là, il y a des gens qui risquent en tout cas de ne pas empocher des millions de commissions prévues pour ces marchés-là.
Dixon Assani, c'est quoi la solution pour que nous puissions aller aux élections apaisées? La solution idoine?
Oui, c'est revenir au souhait de tout le monde, c'est-à-dire se mettre autour d'une table et essayer un peu de revoir quelle est la position qui peut éviter les pays à se mettre à feu et à sang. C'est-à-dire que la convention, les élections émanent d'une convention collective entre différentes parties prenantes. Et dès qu'il y a une partie qui conteste l'outil qu'il faut utiliser aux élections, il faut toujours revenir. Parce que la CENI met toujours en exergue le problème de l'argent. Oh, ça va économiser l'argent, ça va faire ça, ça. Maintenant, ce sont ces mêmes contribuables qui refusent cette économie d'argent. Je pense qu'à mon avis, il faut toujours revenir sur ce que veulent les autres au lieu d'insister et de camper sur sa position.
Merci.
Ceci aiderait aussi cette même CENI à se mettre, à se valoriser dans les jours à venir.
Merci. Notre deuxième thème de ce soir, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire propose la suppression de l'examen d'État. Steve Mbikai évoque notamment comme cause la baisse sensible du niveau des élèves qui viennent du secondaire pour l'université. Il propose par exemple et que chaque école puisse avoir son diplôme d'État du cycle secondaire après un test de qualité. En plus, le ministre de l'ESSU suggère la création des ministères de l'Éducation nationale ainsi que la tenue des États généraux de l'éducation. Steve Mbikai explicite sa pensée au téléphone d'Alain Irong.
C'est parce que je suis ministre de l'ESSU. Je constate que les enfants qui viennent pour être inscrits dans nos universités n'ont pas du tout de niveau. Alors quand ils ont des diplômes obtenus avec 80%, 110%, ainsi de suite, et cela est dû à la fraude généralisée dans laquelle sont impliqués beaucoup de gens, les parents, les écoles, les élèves, ainsi de suite. Alors je ne vois pas à quoi ça sert d'avoir cet examen qui coûte très cher à l'État pour produire des enfants qui n'ont rien en tête. Voilà pourquoi je lance une réflexion qui nécessite qu'il y ait les états généraux de l'éducation nationale pour pouvoir statuer sur la question de la baisse du niveau, notamment à partir de l'école primaire, secondaire, jusqu'à l'université. Il faudrait supprimer ça et puis laisser chaque école donner son diplôme de fin de cycle secondaire, mais avoir un test sérieux d'entrée à l'université qui est fait par un bon organisme crédible.
C'est pratiquement une remise en cause du système éducatif congolais dans son ensemble.
Et absolument, parce que tout le monde est d'avis que le niveau a tellement baissé.
Richard Chaco, rédacteur en chef à la RTGA émettant de Kinshasa, comment vous comprenez cette position du ministre Steve Mbikai?
Je crois, je l'ai dit la fois passée lors de ma dernière intervention par rapport à la clôture ou à l'organisation de l'examen d'État. Je l'ai dit que il fallait réformer les systèmes éducatifs congolais. Je suis très content que ma voix ait été entendue et que le ministre de l'ESSU l'a dit. Parce que l'examen d'État ne rassure pas quant à sa crédibilité. Un élève qui termine l'examen d'État, mais qui va à l'université, trop de lacunes. Nous recevons même des stagiaires, nous qui sommes des journalistes dans nos rédactions. Vous voyez un gradué, ou un étudiant de troisième gradué qui vient passer les stages académiques, mais qui a du mal à vous parler correctement français ou à vous écrire. Dans la corruption a tellement gangréné les systèmes éducatifs congolais, voilà les résultats. Les niveaux très bas de nos jeunes enfants ou de nos élèves qui, pour passer un test, par exemple, à l'université, le ministre l'a dit, c'est catastrophique. Je crois que la convocation des états généraux de l'éducation vaut la peine. Vaut la peine pour voir. Est-ce qu'il faudra toujours continuer avec ce système d'examen d'État? Est-ce qu'il faudra toujours continuer avec ce système de type, plutôt des choix multiples, où il faut retourner, comme je l'ai dit, au type traditionnel? Parce que le type traditionnel, on sait voir la réflexion de l'étudiant, même si cela ne garantit pas, avec les systèmes des mercenaires, les systèmes de, c'est-à-dire la corruption, et du côté des parents, et du côté des élèves, et du côté de l'école. Tout donc, je crois qu'il faudra réfléchir, pousser très loin la réflexion pour voir. Parce que on dit l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. Ce que la jeunesse est aujourd'hui, c'est ce que sera l'avenir du pays. Si la jeunesse, l'éducation est bâclée, je crois que rien n'est pas. Je crois qu'il faudra réformer, il faudra réfléchir très bien, convoquer les états généraux d'éducation pour voir sauver l'éducation. Sinon, c'est le pays qui est en péril.
Jérôme Kolo, journaliste et producteur du magazine d'information à CCTV, une chaîne émettant des Kinshasa, à travers cet appel pathétique, il faut le connaître, c'est un appel pathétique, n'est-ce pas, de Steve Mbikai. Est-ce que le ministre n'est-il pas en train de rejeter l'évaluation telle qu'elle est faite à travers l'examen d'État depuis plusieurs décennies?
Oui. Personnellement, je suis d'accord avec le ministre sur le diagnostic, parce que même vendredi passé, sur ce même plateau des studios de Radio Capit, nous avions reconnu la baisse, en tout cas, du niveau d'enseignement dans notre pays. Bon, il dit qu'il faut supprimer l'examen d'État. Moi, je pense que c'est pas ça la solution, parce que l'examen d'État, c'est juste un examen d'évaluation pour pouvoir en tout cas accorder un papier qui sanctionne la fin des études secondaires pour l'élève. Mais il faut plutôt essayer un peu de voir dans le parcours scolaire de l'enfant, dans la formation reçue par l'enfant, quelles sont les failles qui expliquent par exemple qu'on ait un diplômé d'État avec 80%, mais qui n'arrive pas à défendre ses doigts.
Et donc, comme le propose de Richard Chacot, réformer tous les systèmes éducatifs congolais.
Oui, il faut des États généraux, comme on l'a dit, mais je me souviens que dans ces pays, il y a eu des États généraux. Même quand on a fait la conférence nationale souveraine, il y a eu le secteur de l'éducation
avec
qui a été
passé
au crible, tout ça. Ce qui est important, au lieu de dépenser l'argent pour organiser encore des États généraux qui vont nécessiter qu'on puisse financer ces travaux-là, il faut plutôt aller puiser, je crois, dépoussiérer, comme l'avait dit Alain Irung dans l'interview qu'il a eu avec le ministre Steve Mbika. Il faut dépoussiérer seulement les recommandations qui avaient été formulées à l'époque et les actualiser pour faire en sorte qu'on ait vraiment une éducation de qualité.
Et donc, cela veut dire que les solutions sont connues, mais il n'y a pas de volonté, n'est-ce pas, pour les mettre en pratique?
Oui, la volonté n'y est pas, parce que ceux qui arrivent aux affaires, ils n'y arrivent pas pour servir la société, ben c'est pour se servir. Dès qu'on est ministre, par exemple, on a tous ces enfants qui vont étudier aux États-Unis, en Afrique du Sud, en France, en Belgique, et que les enfants des pauvres ne puissent pas avoir une éducation de qualité, bon, c'est le cadre des soucis de ce qui nous gouverne. Donc il faut vraiment une réflexion. Et que ce que Mbikai a dit, je me suis rendu compte que ça a frustré le ministre de l'EPSP, mais il faut vraiment une concertation, parce que c'est une solution qui doit être générale, donc une solution holistique, parce qu'il y a aussi les conditions de vie et le travail des enseignants, leur formation qui doit être améliorée. Et il faut aussi, par exemple, que l'école cesse d'être, c'est pas des centres commerciaux, des entreprises commerciales aujourd'hui. Ce qui importe pour les écoles aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'argent que les parents payent, mais la formation, en tout cas, laisse à désirer. Un petit exemple, l'école de journalisme à l'époque, l'ISTI, qui était une école élitiste. Aujourd'hui, c'est une formation de masse qui est donnée et que vous vous retrouvez avec des diplômés journalistes incapable de vous formuler ne fût-ce qu'une phrase correcte en français, et c'est catastrophique. Donc le mal, en tout cas, est trop profond. Il faut qu'on puisse, en tout cas, y penser. Parce que ceux qui se sont développés à travers le monde, c'est par l'éducation que cela a été fait.
Dexon Nassani, journaliste indépendant et correspondant des Radio 50 de Kinshasa et Radio KFM de Kindu à Kalima au Maniema. Vous avez suivi J.R. Mokolo qui a, n'est-ce pas, évoqué certaines antivaleurs. Les écoles sont devenues des centres commerciaux. Il y a cette question, n'est-ce pas, de qualité de vie, de travail des enseignants. Et tout cela ramène, n'est-ce pas, au désengagement de l'État, de ses responsabilités. qui serait les problèmes fondamentaux, n'est-ce pas, qui expliquerait, n'est-ce pas, cette baisse du niveau de l'éducation en RDC?
Voilà, merci beaucoup une fois de plus. Je pense que, à mon avis, le ministre a tapé à côté parce qu'il n'a pas vraiment étudié profondément les mots qui gangrènent aujourd'hui les niveaux cette baisse des niveaux d'études des enfants. L'examen d'État, mon cher frère Guy Maté, n'est pas un problème. Parce qu'il faut voir, le parcours pour obtenir un diplôme d'État, c'est 12 ans. C'est 12 ans, c'est-à-dire 6 ans à l'école primaire et 6 ans à l'école secondaire. Ces 12 ans sont sanctionnés par la remise de ces petits papiers-là. Maintenant, est-ce que c'est cette évaluation qu'on fait à cette 12e année qui peut avoir un problème? Moi, je pense que le ministre devrait normalement étudier les parcours scolaires d'un enfant, en commençant par la première année jusqu'au niveau de la 6e année primaire et aller de première année secondaire jusqu'à la 6e année des humanités. C'est ce parcours-là que devait normalement étudier le ministre. Quels sont les problèmes qui se trouvent? Quelles sont les difficultés qui sont en cours, qui sont sur ce chemin-là des 12 ans, notamment ici? Il y a des problèmes qu'il faut soulever. C'est le cas, par exemple, des parents qui ne veillent plus à l'évolution de leurs enfants quand ils sont dans les parcours scolaires. Auparavant, c'était des parents qui allaient à chaque fois au niveau des écoles, aller demander quelle est l'évolution de leurs enfants. Mais aujourd'hui, les parents ne font plus pas ça. Il y a aussi les enseignants qui sont restés sans conscience. Pourquoi je dis sans conscience? Parce qu'ils ne sont pas encadrés sur le plan social. Leur salaire qui s'évaluerait ces derniers temps à 100 000, 120 000 francs congolais et qui ne donne pas même une satisfaction, qui ne relie même pas les deux bouts de mois avec 120 000. Pensez-vous qu'un enseignant peut vraiment être conscient et donner les cours comme il se doit, sans passer par la corruption, même si le ministre est en train de décrier la corruption? Il y a aussi les cas, par exemple, sur l'aspect pédagogique. Les enseignants de ce dernier temps ne sont plus formés, malheureusement. Ils doivent être formés, ils doivent passer par des formations, surtout en ce qui concerne les différents programmes nationaux qui sont publiés à chaque année. Il y a par exemple aujourd'hui la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Nombreux enseignants sont ceux-là qui restent sans formation quant à ces domaines-là. Il y a aussi, sur le plan matériel, les enseignants dispensent des leçons, mais ils n'ont pas de matériel didactique. Comment pensez-vous que le niveau des enfants d'aujourd'hui peut aller au-delà de ce que leur enseignant leur donne? C'est-à-dire qu'ils doivent se limiter. Là où l'enseignant se limite, et aussi se limite là. L'enseignant se limite à un niveau trop bas parce qu'il n'a pas de formation, il n'a pas de matériel, il n'est pas encadré.
Merci.
Et ça entre aussi chez l'enfant.
Merci, Dexon. Richard Chacot, ça sera sous votre conclusion. Vous avez évoqué, n'est-ce pas, la nécessité de réformer le système éducatif congolais. Et bon, ça c'est la chanson de tous les jours, hein. On l'a dit à l'issue des différentes assises qui ont été organisées dans ce secteur. Mais est-ce que les ministres n'auraient pas eu le courage, n'est-ce pas, d'appeler l'État congolais à pouvoir assumer ses responsabilités? Parce qu'on dit que c'est ça le problème fondamental.
Le ministre Mbika, il l'a dit de manière voilée, même si, comme on l'a dit, ça a frustré un peu son collègue de l'EPSP, qui a dit
parce que la procédure, la procédure n'avait pas été respectée.
Oui, qui a dit que les choses de l'État se règlent en conseil, mais voilà. C'est pas dans des médias. Mm-hmm. Ça, je le concède là. Mm-hmm. Mais l'élément est profond. Je crois que le ministre Moussemena, il l'a pas dénié. Mm-hmm. Il a reconnu qu'il y a un problème. Mm-hmm. C'est vrai, je parle de réformer le système éducatif congolais, comme l'a dit mon confrère JR. C'est vrai, réformer, ça peut passer aussi à recourir à ce qui a été décidé. Mm-hmm. Comme l'a dit, dépoussiérer tout ce qui a été recommandé. Le problème de la CPS, c'est que quand un ministre quitte le gouvernement, toutes les résolutions qu'il a prises là, même si elles sont bonnes là, celui qui vient ne tient plus compte de ça. Je crois qu'un auteur avait dit que si vous voulez détruire un pays, ne recourez pas aux bombes atomiques, ne recourez pas à la grande artillerie, détruisez seulement son système éducatif, vous allez détruire ces pays. Je crois que si on ne fait pas attention, ces pays seront davantage détruits.
Gérard Mokolo, ça sera sur votre conclusion. Donc, il faut une certaine volonté politique pour, n'est-ce pas, prendre en compte toutes les résolutions et recommandations qui ont été formulées à l'issue des forums.
Tout à fait. En tout cas, une volonté politique. Mais je me rends compte que celui qui dénonce, par exemple, le niveau les dysfonctionnements de notre système éducatif. Lui-même, je ne vois pas ce qu'il fait exactement pour faire avancer les choses. Je le vois, par exemple, transformer les sites universitaires en base électorale. Chaque fois qu'il y a un problème là-bas, il descend pour dire que non, le chef de l'État m'a envoyé, le chef de l'État m'a instruit. Je viens ici au nom du chef de l'État pour trouver solution, par exemple, à l'incendie des hommes, des filles à l'UNIKI. Et il veut maintenant transformer l'ISTA, par exemple, en université technologique. Est-ce que quand vous voyez l'ISTA là, avec tout ce qu'il a comme infrastructure, est-ce que cet établissement répond vraiment à des conditions pour être transformé en université?
Voilà, pourquoi tout cela, est discutable.
Tous les établissements supérieurs doivent devenir des universités. Pourquoi?
Tout cela est discutable.
Et pourquoi doit-on, par exemple, voir l'effigie du ministre devant l'entrée de l'ISTA?
Merci. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Polydor Basunga qui était à la technique, à Alain Irung qui a réalisé et coordonné cette émission sous la supervision de Pelé Kipelamondo. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Okapi.